14h.
À l'affiche. Toi, t'es allé au ciné dernièrement ?
Oui, oh, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé.
Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi.
C'est pas mal aussi. Ouais.
Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même.
Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on...
C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Ou regarder un bon film télé, même les séries d'ailleurs.
Ouais,
on peut parler
pas.
De séries aussi.
Ah oui, il y a du boulot là.
C'est vrai. Mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion.
C'est ça. Et de vérité, de curiosité.
Bref, on veut faire rêver, quoi.
Oui, oui, et continuer de rêver nous-mêmes.
Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche.
Ou pas.
Est-ce qu'on fait rêver aujourd'hui dans cette émission, Geneviève ?
J'espère.
Bonjour Geneviève.
Bonjour Elvire.
Bonjour Marianne. Bonjour. On est sur la radio HDR et on y est bien. Merci d'être là. On va parler de cinéma. Enfin, je dis on, mais en fait, c'est pas vrai parce que pour une fois, je vais fermer mon bec. Enfin, non, je vais t'en poser des questions, c'est sûr.
Puis tu vas m'aider.
J'en sais rien. J'ai vu un que. Oh,
tu vas retrouver
film.
Les réalisateurs, les acteurs,
allez,
tous les noms que j'arrive pas à dire. Tu vas les retrouver.
Allez, on est parti. Tu nous parles de. La première, c'est.
La vie après Siam.
Après Siam. Voilà. Tu nous fais le pitch avant qu'on écoute le. Ou c'est pas la peine.
Je peux faire le pitch, enfin c'est très bref, c'est un documentaire qui raconte la vie après Siam, Siam étant la maman du réalisateur, qui avait été l'actrice principale, entre guillemets, du documentaire précédent, qui s'appelait « La Vierge, le corps et moi », parce que le réalisateur, là, elle est égyptienne, le réalisateur est égyptien, franco-égyptien, parce qu'il a vécu en France. Il avait déjà fait un documentaire sur l'influence de la religion et de la vie en Égypte, etc. Et là, il lui avait promis de faire un vrai film, parce que pour la maman, un vrai film, c'est avec des vrais acteurs, quoi. C'est pas, un documentaire, c'est pas un vrai film, quoi. Donc, il lui avait promis de faire un vrai film avec des acteurs, et elle, comme actrice aussi. Sauf qu'entre deux, elle est décédée d'un cancer. Donc ça a été... Et finalement, lui, le jour de son inhumation, il a décidé de commencer à filmer et de raconter la vie après Siam. Et c'est d'une force, d'une beauté, c'est émouvant, c'est touchant, c'est drôle aussi. Enfin bref, je recommande ce documentaire qui est vraiment intéressant. Donc, comme on dit déjà, générique.
Non, pas générique, bande-annonce.
Allô, Nico ? Tu connaîtrais pas un ingénieur du son ? Pour l'instant, c'est pas payé, mais je suis sûr qu'on trouvera un producteur. Un scénario. Pourquoi faire ?
C'est un film de merde.
Répète ce que tu viens de dire, là.
C'est un film de merde.
J'avais fait une promesse à ma mère, celle de refaire un film ensemble. Son rêve, c'était de jouer dans une de ces histoires d'amour qu'on voit dans les vieux films égyptiens. Attention. Silence, moteur, action.
كثيرا بحس انها موجوده في البيت واحس انها بتتحرك حتى في البيت بس
ما ضعفت الذاكره خالص كم سنه ما عندكش علاج ليها
باقي الوحيد اللي عندي هو الكاميرا
فين تصوير بقى هو فين تعملوا ده هو ده كله ده تهريب
مامو نمير تي بو بارلي كومبليت تي رونتر علي باي.
Est-ce qu'il a fait d'autres films, du coup ?
Alors, je sais qu'il a fait un premier documentaire, mais après, je suis pas très au courant. Je pense qu'il a pas, il n'en a pas fait tant que ça. Il a la quarantaine, il fait plein d'autres choses.
Oui, mais en fait, c'est voilà, il est documentariste avant tout.
Oui, c'est ça. Pour le moment, il est documentariste. Il n'a pas encore fait de vrais films, comme il m'a dit.
Comme disent beaucoup de gens. Hein.
Oui,
il y a
c'est
une vraie
ça.
Confusion entre c'est le ça. Documentaire, le reportage, ouais. Donc le travail de journaliste, ouais. et puis le film de fiction et même le court-métrage. Enfin, il y a une confusion. Bon, c'est pas très grave. Le tout étant que les gens ils s'y retrouvent. Et
oui,
puis,
mais en même temps, ce film-là, justement, ce que je trouve très amusant, c'est que s'intéressant à la vie de sa mère, il se réapproche se rapproche de son père, parce que finalement, quand il y a un père et une mère, souvent on est plus proche de l'un ou de l'autre, et elle, c'était le lien entre les deux, elle n'est plus là, tous les deux doivent se reconstruire un lien. Il découvre des lettres, il découvre leur histoire d'amour, qui est très, très très romanesque, c'est presque un film, leur histoire d'amour. Elle est restée 3 ans en Égypte, lui il a fui parce qu'il était en prison à cause pour des raisons politiques. Enfin, il découvre toute cette histoire-là, il découvre que sa mère a eu un premier amour, mais comme elle s'était engagée auprès de son père, elle a renoncé à son amour pour être fidèle à sa parole. Enfin, c'est vraiment très romanesque. Et il met des scènes de vrais films égyptiens pour illustrer cette histoire d'amour, ses adieux, ses retrouvailles, tout ça. Donc ça fait presque un vrai film. Sa mère serait peut-être contente de là où elle est. Donc il y a ça, et l'idée de transmission, parce que du coup, il amène ses enfants à s'intéresser aussi à son histoire, à leurs histoires, et peut-être qu'eux, plus tard, seront contents d'avoir posé des questions que nous, on n'a pas toujours posées à nos parents avant qu'ils partent.
D'accord. Merci pour cette découverte, ça donne très envie en tous les cas. Il est sorti là cette semaine, donc
Il y est encore en principe. Oui, bien sûr. C'est un documentaire, donc ça sera moins long.
Ça reste moins longtemps.
Que Marsupilami.
Et puis ce sera pas au même endroit. Tu n'auras pas Marsupilami à l'Omnia. Promis le ciel de Irigé Seiri, tu l'as vu?
Oui, je l'ai vu.
En deux mots, tu as envie d'en dire quoi, toi?
J'ai envie que c'est un très beau film aussi, un beau film sur les femmes, sur l'exil, sur l'insertion, enfin bref.
Sur le racisme aussi de mémoire,
Bien sûr, hein, bien sûr.
Promis le ciel de Irigé Seiri, duré 1h30, pour parler du monde et de sa folie, pour parler des hommes et de leur petitesse aussi. Un trio d'actrices absolument magnifiques. Si le sujet est poignant, l'émotion est au rendez-vous, au-delà du sujet, et cela ne gâche rien. Un film à voir. 3 portraits de femmes qui cherchent à vivre tout simplement. 3 ivoiriennes à Tunis. Et c'est là que c'est intéressant. Oui. C'est du coup de retrouver le racisme ailleurs.
Oui.
Pour nous, en tous les cas, c'est intéressant. C'est une enfant échouée d'un bateau de migrants qui les confronte à elles-mêmes, à leur choix, à leur résistance. 3 femmes qui cherchent un ailleurs, une promesse de ciel. Mais c'est bien sûr sur Terre. Quels sont ? J'en ai un assez beau souvenir, surtout. Ouais. Oui, vas-y.
C'est juste aussi pour dire qu'il y a 3 générations. Il y a celle de 20 ans qui est étudiante, qui a encore plein d'espoir, qui pense pouvoir s'intégrer vraiment. Il y a celle de 30 ans qui a un enfant, qui a quitté son enfant pour pouvoir trouver du boulot et espérer s'enrichir un petit peu, avoir une vie meilleure. Et puis, tu as celle de la quarantenaire qui, elle, a déjà des enfants, qui a son travail, son métier, sa position de pasteur évangélique qui la rend sage en principe. Enfin, donc 3 portraits de femmes très différentes avec les mêmes problèmes.
Oui, complètement. Aïssa Maïga, que nous connaissons et que nous avons retrouvé dans plusieurs films.
Très très bien.
On connaît plutôt bien. Déborah Christelle Lobnane, qu'on connaît pas elle par contre.
Non, c'est son premier film.
C'est son premier film et c'est une très très belle femme. Elle a une énergie incroyable. Et Laetitia Ki, qui est aussi, qui complète le trio
qui
à merveille.
Une artiste, elle, c'est aussi, c'est pas une actrice très connue, mais une vraie artiste.
Et ce qu'il y a d'assez beau d'ailleurs, c'est que Aïssa Maïga, qui pourrait tout à fait prendre le là, pas du tout, elle reste au même niveau que les deux autres. Elles sont dans une vraie générosité, toutes les 3. Et encore une fois, en re-regardant, parce que donc moi, ça commence à dater, puisque c'était de Cannes, mais en regardant simplement leur visage et puis l'image et l'affiche, ça me revient les belles énergies et très fortement cette particularité du racisme contre les Africains d'Afrique noire. Un peu partout dans le monde et voir cette espèce de miroir grossissant que devient le cinéma.
C'est la peur de l'étranger, en fait.
Bien sûr.
Je pense que c'est...
Avec cette petite touche supplémentaire, il me semble, sur le regard de la femme.
Oui, en plus. Hein? Oui, bien sûr. Bien sûr.
On écoute.
Tu es au bon endroit. Tu es venu chercher celui qui n'échoue pas, celui qui n'échoue jamais, le roi des rois pour l'éternité. Alléluia!
Alléluia!
Comme ça, on va bien s'occuper de toi.
Qu'une cliente d'origine subsaharienne qui s'y trouvait était raflée par la police.
Les tontons blancs là disent qu'on mange le chat. Toi, tu manges le chat?
Je vais te manger.
Oh!
Tu veux me mettre dans des trafics, j'ai pas assez de problèmes.
Ma fille, qui t'a dit jeune fille?
Elle est passée ta maison.
Non.
On aura la chance de la voir.
Tu sais, la distance, ça tue l'amour. Nous tourne le dos en ce moment dans ce pays. Tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est ce qu'on a construit les uns avec les autres.
Jolie!
Tu allais te mettre dans quoi encore là? Il faut remettre cet enfant aux autorités.
Toi, tu fais confiance aux autorités?
Chaque jour est une bataille.
Vraiment un film qui emporte, on est vraiment plongé dans l'univers africain, bien sûr, oui. Mais encore une fois, je le répète, avec des problématiques internationales, oui. Il y a l'histoire de manger le chat, j'avais oublié ce détail.
Et moi, c'est très proche de l'actualité, avec la ICE en ce moment aux États-Unis, avec le personnage de l'étudiante qui se croit sûre d'elle, puisqu'elle a son statut d'étudiante
qui, et qu'elle a droit.
Et qui, c'est la seule qui se fait arrêter et qui commence à vraiment avoir peur. Mmh. Et donc, on comprend ce que peuvent vivre les Américains ou étrangers en Amérique, ça doit être terrible.
C'est absolument terrifiant. On passe sur un autre sujet. Hein, en fait, on n'a pas trié, on n'a pas fait. enfin, en tous les cas, j'ai pas fait. Je n'ai pas organisé dans un ordre en me disant oh, il y a des thématiques et tout. Pas du tout. J'ai pris les films, je dis allez, c'est février. Il y a moins de jours, on va au cinéma. Non, j'en sais rien. J'ai rien dit du tout. J'ai pas réfléchi. À pied d'œuvre, Valérie Donzelli. Je suis pas une fan de Valérie Donzelli, moi, d'une manière générale.
Ah oui, mais comme c'est très différent. Normalement, tu devrais pouvoir être intéressée.
C'est vrai ? Parce qu'elle a toujours un côté un peu élitiste, je trouve. C'est ça qui me fatigue.
Alors justement, ça c'est intéressant parce que ça n'a rien à voir.
Tant mieux.
Alors, il faut que je retrouve ma petite fiche.
Si retrouve ta petite fiche pendant que je donne 2-3 informations. Voilà. Bastien Bouillon, il est dans un autre rôle ou il est encore dans un rôle de mec un petit peu beauf sur les bords, casseur comme on l'a retrouvé, qui est génial d'ailleurs d'en partir un jour, etc.
Partir un jour, il n'arrête pas de changer ce mec-là. Il est aussi dans l'affaire Bojarski.
Il est dans Météor.
Il est inspecteur de police.
C'est vrai, il est génial dans Bojarski.
C'est vraiment, comment on dit, un caméléon. Vraiment.
Tout à fait, tout à fait.
Et là, il joue un rôle. Le film est d'une austérité. Valérie Donzelli est connue pour sa fantaisie, même quand elle raconte des drames, il y a toujours de la drôlerie, des trucs à côté. Là, elle est dans une rigueur et dans une austérité qui pourrait faire peur un peu, tellement c'est,
okay.
Elle s'inspire d'un livre. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même. Quand c'est elle-même qui écrit, elle n'arrive pas à se contraindre. Là, ça fait le deuxième film qu'elle adapte. Tu avais vu Amour et forêt ? Il était déjà très bien, très sobre. Et là, c'est encore plus sobre. Puisque l'histoire vraie...
Elle devient bergmanienne. Alors, pour les non-initiés, oui. Bergman, quand même, c'est un cinéma extrêmement élitiste et très lent.
Eh bien...
Mais moi, j'adore Bergman.
On pourrait presque voir ça. Et donc, l'histoire vraie d'un auteur qui s'appelle Franck Courtès, qui était qui a fait un livre presque autobiographique parce qu'il était photographe célèbre, connu, il shootait à gogo, et puis il décide d'écrire et là il arrête tout. Donc finalement il finit par découvrir non pas l'écriture mais la pauvreté parce qu'il il se consacre à l'écriture, donc il n'accepte plus de travailler pour la photo et du coup il fait des petits boulots par-ci par-là, il déménage, il retourne vivre chez son père. Donc c'est ce que le film raconte, hein. Il raconte... notre Bastien Bouillon. Qui change de vie, qui change de peau, qui s'appauvrit. Et elle raconte aussi le monde d'aujourd'hui, avec l'accès au travail qui est compliqué, les petits emplois mal payés, fatigants, qui cassent le dos. J'ai découvert aussi, moi, qu'il y avait des applications sur lesquelles où tu te proposais à ton tarif, et plus tu te proposais un tarif bas, plus tu avais des chances d'être choisi.
C'est vrai, ça ?
Oui, c'est vrai, c'est terrible.
Donc c'est en plus une peinture sociale.
Ah, oui, ah oui, complètement. C'est parce que l'écrivain en devenir observe sa vie, il la raconte, l'écrit. Donc c'est à la fois ce qu'il est en train de vivre et ce qu'il est en train d'écrire. Donc il y a une voix importante qui est pénétrante. Et donc il combat son éditrice, il s'oppose à son père qui lui reproche sa
chute.
Sa chute, voilà, c'est ça, ça pèse de classe, quoi. Enfin bref, c'est vraiment un film très amer. On sait qu'il s'en sort, puisque l'auteur écrit son livre et a réussi. Mais dans le film, c'est dur.
Ok.
Voilà.
On écoute la bande-annonce.
Écoute, Paul, tes livres ont un vrai succès d'estime. Mais on va pas se mentir, les ventes sont décevantes. Moi, aujourd'hui, j'attends de toi ton grand roman.
Et tes enfants, ça va ? Ça te dérange pas qu'ils partent si loin ?
Ce n'est pas la misère. Mais on commence à en avoir une vue bien dégagée.
Je suis prêt à accepter n'importe quel boulot, mais j'aurais besoin de temps à moi pour écrire.
Vous voulez un travail qui vous laisse du temps?
Mais vous faites ça depuis longtemps?
Pas vraiment.
Ah ouais, parce que vous avez pas trop la tête à faire ça.
Gare du Nord?
Paul, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture?
Ah, je travaille.
Non mais je rêve. Un boulot mal payé comme un esclave.
Tu sais, à notre époque, il y a des esclaves très bien payés.
Je comprends pas pourquoi tu t'entêtes à faire ces boulots de merde.
C'est peut-être le prix de ma liberté. C'est au moment où j'ai épuisé mes économies, sans espoir immédiat de les renouveler, que j'ai pris conscience que je devenais pauvre.
Paul, t'es pas un vrai pauvre.
Pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche?
C'est votre métier, le bricolage?
Complètement taré.
J'ai une bémol, vous avez pas trop la tête à faire ça.
N'importe quoi d'autre.
Espoir, comment t'en es arrivé là?
J'ai pas envie que tu finisses à la rue, comme un clochard.
Du moment que j'écris.
La menace d'être un clochard. Mmh. Ça me faisait penser à un film, alors pardon, c'est une petite parenthèse, mais qui n'en est pas tant que ça, parce que j'ai vu un documentaire sur Internet, sur Jean-Jacques Haneau et sur Le Nom de la Rose. Donc en fait, on est et sur l'austérité de Jean-Jacques Haneau, les exigences extraordinaires, cinglées de Jean-Jacques Haneau, mais qui te fait ça avec une finesse, une gentillesse. Tu te dis, et en fait, ça devait être absolument terrible de bosser pour lui. Mais néanmoins, il est tellement gentil que tu dis, ah bah oui, d'accord. Mmh. Mais, et puis tu as... ben, c'est quand même... ah ben voilà, je joue ma Geneviève. C'est... Le Nom de la Rose, aide-moi.
Sean Connery.
Mais oui, Sean Connery, bien sûr, mais l'auteur. Et ce qu'il y a Umberto Eco. C'est absolument génial, parce que Haneau nous raconte à quel point ce film a coûté une fortune. Il faut imaginer entre 500 et 1000 repas par jour, déjà, rien que ça, sur le tournage. Donc déjà, tu dis OK. Puis évidemment, ils ont reconstruit des décors. Enfin, à l'époque, c'était complètement différent. On est dans les années 80, hein. Donc c'est absolument effarant pour aujourd'hui, c'est complètement fou le nombre de figurants aujourd'hui alors qu'on les multiplie avec l'IA, enfin ça n'a plus rien à voir, hein. Le boulot évidemment a énormément changé. Et il explique que Umberto Eco a pu s'acheter une pauvre Volvo d'occasion. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à tout ça. Oui. Bref, à voir.
Mais c'est un sujet qui doit intéresser tous les artistes.
Qui est très intéressant.
Parce que le prix à payer pour la liberté de créer, quoi.
C'est pour ça, le vrai droit de créer.
Qu'on soit écrivain, comédien, réalisateur, tout ça.
Et en fait, tristement, j'ai envie de dire, la question devrait se poser pour tout le monde. Alors évidemment, certains n'ont pas un talent spécifique et une envie spécifique et vont bosser juste pour gagner leur vie.
Oui, okay. Mais c'est ce qu'il dit en parlant d'esclaves bien payés.
C'est ça, exactement.
Ils ont un métier qui les emmerde, mais ils sont esclaves contemporains. Donc moi, je trouve que le film aborde tous ces sujets-là, et plus particulièrement la dualité de l'artiste. Est-ce que je continue à ramer pour aller là où je veux aller.
Où je me pends tout de suite. Merci Pilami.
Où je me vends ailleurs.
Je suis dans ces grandes problématiques. Marsupilami, allez, c'est rien à voir. Vous n'irez pas le voir à l'Omnia. Pâté. Oui, c'est un bon. Oui, tant mieux.
Non, c'est un bon.
Ah oui, un bon, c'est un bon marsupilamien. Et c'est peut-être un bon film aussi.
Mais je vais le défendre parce que.
Parce qu'il le faut. Parce que c'est la bande à Fifi, tu les aimes bien.
C'est la bande à Fifi et ça marche, quoi. Moi, je dois avouer que.
Oui, à chaque
fois. Ben moi, je ris à chaque fois. Je ris, mais je ris aux éclats. Pardon, je tape même sur la table tellement je ris aux éclats. Et pourtant, je vois que ça, c'est toujours la même recette, c'est toujours le même fonctionnement. Mais d'abord, ils sont très sympas. Ils sont vraiment sympas et ça se voit à l'écran. Ils ont un système avec l'imbécile heureux qui est toujours imbécile, mais imbécile de imbécile. Tout premier degré et ça marche. Et c'est très bien joué par Julien Arditi. Arruti.
D'accord.
Voilà. Et là, ils ont eu l'intelligence de s'attaquer à un succès de BD, oui. Le Marsupilami, qu'Alain Chabat avait déjà mis en scène en 2012. Et ils ont fait le lien avec Jamel Debbouze, qui était déjà dans le premier, qui est dans le deuxième. Donc, s'il y a un respect de l'ancien, il y a un respect du personnage de BD, et ça marche. Ça nous emporte. On peut mettre la bande-annonce.
Enfin, d'accord, on peut juste dire quand même que c'est aussi leur patte et leur marque de fabrique de toujours faire une référence à d'autres réalisateurs, d'autres films.
Oui, alors
ils
là,
aiment tellement le cinéma c'est fabuleux. Quoi.
Oui, ça permet, ça donne du plaisir à celui qui ne va pas forcément fonctionner à l'aventure ou à la rigolade, de retrouver, là il y a E.T., c'est évident, il y a une scène mythique d'E.T.
Le vélo s'en va.
Oui, le vélo, là au lieu de protéger E.T., ils protègent le petit marsupilami, ils essayent de l'enlever, ils sont suivis par les flics, donc il y a cette scène-là. Bon. Et en parlant des gags, il y a plein de gags différents. Il y a ceux qui sont, qu'on voit régulièrement, puis il y a ceux qui sont totalement inattendus, et puis il y a ceux qu'on voit venir. Et je crois que c'est ceux qui me font le plus rire.
Parce que tu sais que ça va arriver.
On sait que ça va arriver. On sait que ça...
Et tu dis non, c'est pas possible.
On ne peut pas s'empêcher de rire. Mmh. Alors, dans la bande-annonce, on ne la voit pas, mais il y a une scène où Tarek Boudali, vous voyez qui c'est, non ? Oui, c'est là. Mmh. Voilà. Vous connaissez ? Non.
Si, tu le connais, regarde. Qu'on ne connaît pas les noms de tout
Boudali.
Le monde.
Alors, il fait partie de cette scène où on essaye de s'échapper avec le marsupilami. Il est en vélo et tout ça. Il faut des bons et des bons sur des terrains. Et là, on le voit qui s'envole. On voit son visage. On voit son visage qui s'inquiète. Alors, c'est ça qui est drôle. Il n'y a pas un mot. Il y a son visage qui s'inquiète. Et on voit la selle du vélo qui s'est échappée du cadre et qui passe sous ses yeux.
Ah oui, okay.
Et on voit ses yeux, vraiment. Donc, on sait ce qui va arriver. Ouais, et ça arrive.
Ouais.
Mais on ne voit rien. C'est ça qui est très drôle.
Ah,
et on rit. Mais c'est terrible. Voilà. Donc, c'est ça.
Parce que c'est aussi de très bons acteurs.
Bons acteurs qui s'amusent en faisant ce qu'ils font, très sérieusement.
Ouais.
Il y a Élodie Fontan, qui est la femme... là, cette fois-ci, elle est dans la vie la femme de Philippe Lachaud. Mais là, ils sont séparés. C'est des ex. Il y a... Julien Arduti qui est toujours imbécile, mais qu'est-ce qui le fait bien, franchement.
Ouais.
Et puis Tarek est toujours un peu c'est soit l'un soit l'autre. Des échanges entre Philippe et lui, les rôles principaux ou secondaires, mais c'est toujours réussi.
Ça fonctionne. Alors on écoute juste pour rigoler.
Voilà.
Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière.
Y a un piège ?
Et me ramener un colis en France. Y a moins de contrôle en bateau qu'en avion.
Il y avait un piège.
Il y a trois règles. Règle numéro 1, ne jamais ouvrir le colis.
C'est quoi ça ? Le marsupilami.
Règle numéro 2, en prendre le plus grand soin. Règle numéro 3, être le plus discret possible.
Hola, que tal ?
Et tu y vas avec ta femme et ton fils. Vous passerez plus incognito.
Le premier qui rigole, il se prend une tapette. Non, mais t'es malade ou quoi ?
Le marsupilami est extrêmement convoité.
On est à la recherche d'un animal jaune à taches noires.
Si quelqu'un a des infos sur cet animal, qu'il lève la main.
Finalement, le plus drôle, c'est de voir Geneviève quand elle écoute les bandes annonces parce qu'elle se rappelle du film, elle a toutes les images, même sans les voir, là, elle les a toutes et du coup, ça l'a fait beaucoup rigoler.
Oui, parce que c'est le problème de ces bandes-là, c'est vraiment visuel en fait.
Oui.
Il y a beaucoup de. Mais preuve.
Enfin, on entend bien le bruit, le bruitage et on comprend. Hein,
voilà, c'est ça, parce que je l'ai raconté. Mais la preuve que c'est une équipe qui fonctionne bien, qui est sympa, c'est que toutes les grandes stars acceptent d'avoir un petit rôle dedans. Il y a l'agent Réo. Reno, et c'est pas pour des bons rôles en général, hein, c'est vraiment... Il y a Gérard Jugnot, il y a qu'est-ce qu'il y a encore, Damel Debbouze qui est vraiment content, il y a Didier Bourdon, enfin, les vieux de l'ancienne génération qui nous faisait rire pareil, sont là. Et puis, aussi un truc qui marche bien avec eux, c'est qu'ils font systématiquement des grandes tournées en France, ils sont très généreux de leur temps, et ils vont d'ailleurs être à Rouen, ce samedi-là, pour vous dire le genre de tournée qu'ils font. Le vendredi, ils sont à Caen pour 3 séances différentes. Ils partent le lendemain au Havre. Ils sont à 14h au Havre.
Et après, ils sont ici.
Après, ils sont à Fécamp.
Ah, ok.
Et après, ils sont à Rouen. Donc, ils seront à Rouen, séance de 16h14.
Ah, ok.
Alors, ils font les...
Auquel ou ça ?
Alors, les deux. Ils vont d'abord faire Pathé, puis ensuite Pathé Doc, et après Pathé Gaumont. Ils font vraiment une tournée incroyable. Okay. Donc, c'est aussi ça qui les aide à avoir du succès, parce qu'ils vont, vers leur spectateurs et ils sont généreux de leur temps. Voilà.
Ok, très bien, merci Geneviève.
C'est une vraie bande.
Mais oui, c'est vrai. Le petit grand écart suivant, c'est pour le gâteau du président.
Ah oui,
il a vraiment navré, hein, c'est vraiment fou. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges et il y en a pour tout le monde.
Et pour toutes les cultures, puisque là, c'est un film irakien.
On retourne, voilà.
Alors là, pas de bande-annonce, puisque c'est irakien. Mais ce que moi, je trouve intéressant, le cinéma irakien, on le connaît peu, puisque d'abord, il n'y en a pas beaucoup. Que dès qu'il y a eu Saddam Hussein en 1990, fin des années 80, lui, il contrôlait tout, fallait que tous les films soient en son honneur. Enfin bref, c'était plus vraiment du cinéma, quoi. Et là, on a peut-être un des premiers films qui sortent depuis cette période-là, qui évoque cette période-là. Alors, Le gâteau du président, ça raconte une histoire, l'histoire, je pense qu'elle est basée sur des faits réels. Pour l'anniversaire de Saddam Hussein, il fallait qu'on fasse des gâteaux d'anniversaire, que toute la population fête l'anniversaire de Saddam Hussein. Et c'est basé sur des histoires vraies, puisque le réalisateur raconte qu'il s'est souvenu de son enfance quand l'instituteur arrivait avec un petit pot. Tout le monde mettait son nom sur un papier dans le petit pot.
Pour être tiré au sort.
Celui qui est tiré au sort le papier faisait le gâteau, devait faire le gâteau pour le lendemain. Puis après, il y en a un autre qui tirait pour les fleurs, les ornementations. Enfin bref, ça devait être une fête à l'école. Et là, donc le film raconte l'histoire d'une petite fille pauvre, très pauvre, qui ne vit qu'avec sa grand-mère et qui a été tirée au sort. D'habitude, elle essaye d'aller aux toilettes à ce moment-là pour éviter, mais là, elle n'a pas pu, donc elle est tirée au sort. Et tout le film raconte toutes les péripéties qu'elle va faire pour récupérer les ingrédients pour faire son gâteau, des œufs, des... Donc, c'est vraiment très intéressant. La situation vue à dos dans... à hauteur d'enfant, avec son copain, et on voit les exigences de Saddam Hussein, on voit en même temps les Américains qui ont fait les blocus, qui empêchent d'avoir de la nourriture, les bombardements qui tuent, donc on voit des cercueils qui passent par-ci, tout en arrière-plan, on a la vie terrible de ce pays
à cette époque-là.
Donc ça vaut le coup, parce qu'en plus c'est fait à portée d'enfants, donc même les enfants, le problème c'est que ça va être sous-traité, mais même les enfants peuvent voir le film, ils sont concernés.
Oui, bien sûr. Oui. Mais le problème, comme tu l'as dit, c'est le sous-titrage.
C'est savoir lire.
Et que, voilà. Bon, ça fait partie des... Oui, parce qu'en plus, j'imagine que ça se tchache, quoi. Alors, pour les enfants toujours, mais cette fois-ci en français, Les enfants de la résistance. Allez, on se met à une petite bande-annonce pour commencer. Ça te va ?
Oui, ça va.
Je suis née à Pont-à-l'Écluse, un joli petit village où je vivais une enfance heureuse.
Je vous ai dit, on ne discute pas les décisions de l'arbitre.
T'es pas arbitre, t'es curé.
Non, ça c'est rien, c'est juste le...
Faut virer ça.
Ah ouais, c'est ça.
Hein? Jusqu'à un jour de 1940, où la guerre tente de me voler mon enfance.
Vous comptez rester longtemps ici?
Le temps qu'il faudra.
Me laissez pas.
Mais avec mes amis, on n'était pas prêts à se laisser faire. Allez, viens.
On va la garder quelques jours.
Merci. Si on la faisait passer pour une de tes nièces?
C'est pas bête, ça.
Toute personne sortant durant le couvre-feu le fera à ses risques et périls.
Et Sapo, faites sortir vos élèves.
Et vous, vous dites rien?
Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise?
Vous êtes rien que des lâches, c'est tout. On ne peut pas rester comme eux, là, sans réagir. On enverra des messages aux gens.
L'occupant pille les ressources du pays pour les ramener chez eux. Signé Lynx.
Ah oui, moi aussi je les ai reçus, mais je suis pas du tout d'accord. Moi, je suis pour la collaboration et le maréchal.
Heil Hitler.
Heil.
Vous savez, il y a plusieurs mondes, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il s'occupe de nous en ce moment.
Il faut quelque chose qui frappe les esprits.
curieux, en temps de guerre.
Mais la guerre est finie.
Pas pour tout le monde.
Sois fier de toi. T'es un petit garçon courageux. Tu m'as servi d'exemple.
Baratier, donc le réalisateur, aime les enfants et il aime les romances comme ça. Oui. Et c'est à la fois un film simple, mais à la fois c'est justement charmant parce que c'est simple.
Oui, oui, c'est, il aime les enfants. On sera pour mémoire, c'est lui l'auteur des Choristes. C'est comme ça qu'on l'a connu. D'ailleurs, c'est son premier film, Les Choristes,
qui a
un énorme succès,
oui.
qui a mis en valeur la chorale. Donc moi, je suis contente, mais bon. après, il a fait la nouvelle version de La Guerre des Boutons. Donc, c'est beaucoup d'enfants dans son. Et des enfants souvent mis à l'honneur. Quoi.
Et puis de la différence. Enfin, il est très sensible. Quoi.
Oui, très. Il essaye d'aller vers l'humanité. Il va vers l'humanité. Là, ce sont les enfants qui sont les héros.